Bonjour à toutes et à tous, installez-vous, c'est l'heure de votre thérapie pop. Chers amis, bienvenue à bord pour ce nouvel épisode de Thérapie Pop, l'émission qui décrypte pour vous la musique contemporaine des années 50 à demain. Nous sommes comme chaque semaine ravis de vous retrouver pour 26 minutes de culture musicale. Et pour mon plus grand plaisir, mais également pour le vôtre, c'est Gauthier qui nous prendra par la main aujourd'hui. Salut Gauthier.
Salut mon bon Théo.
Vous le savez les amis, c'est la dernière semaine du mois et aujourd'hui c'est donc jour de saga. On poursuit notre saga Gainsbourg avec toi Gauthier qui a dû te passer de mes services le mois dernier. Et alors j'ai un souci. On vous révèle nos petits secrets, les amis. Je n'ai hélas pas pu écouter l'épisode de la saga Gainsbourg du mois de février, vu qu'on enregistre cette émission avant sa diffusion. Donc, je ne sais pas de quoi nous avons parlé. Je sais de quoi nous avons parlé en janvier. On a parlé de Bonnie and Clyde, on a parlé de la capacité toujours monstrueuse de notre cher Serge à écrire pour les autres. Je sais de quoi nous allons parler aujourd'hui, mais j'ignore totalement ce que tu as appris à nos chers auditeurs le mois dernier. Cela dit, j'ai une petite idée. J'imagine que ça tournait pas mal autour de Jean Birkin, non ?
Ça tournait pas mal autour de Jean Birkin, et surtout, je suis revenu sur les débuts de la carrière de Gainsbourg, puisque c'est là où vraiment il y a les meilleures chansons. Et donc, je me suis fait une session, les premiers enregistrements de Gainsbourg et les derniers reggae. Et là, vraiment, j'ai passé un très très bon moment.
Mais t'es mauvais, alors. Qu'il est mauvais. Ce qui est sûr, les amis, c'est qu'aujourd'hui, on va évoquer l'album que beaucoup, dont je ne fais hélas pas partie, reconnaissent comme le plus grand album de Gainsbourg.
Sans déconner ?
Ouais. Ah, on a déjà eu cette discussion, Gauthier.
Ouais, mais je m'y fais toujours pas la réponse. Hein.
Eh ben écoute, le mois prochain, je pressens que je pourrais dire « Oh tiens, voici le plus grand album de Gainsbourg. »
Je n'aimerais pas peut-être.
En tout cas, aujourd'hui, on vous parle de l'histoire de Melody Nelson. Je vous propose de commencer l'émission en s'écoutant l'un des tubes de cet album, et ça, je suis bien d'accord, c'est la ballade de Melody Nelson.
Ça, c'est l'histoire de
Melody Nelson.
Qu'à part moi-même, personne n'a jamais pris dans ses bras. Ça vous étonne, mais c'est comme ça. Ses jours étaient comptés, 14 automnes et 15 étés. Un petit animal, que cette
Melody Nelson.
Une adorable garçonne et si délicieux enfant. Je n'ai que n'ai qu'un instant. Oh, ma mélodie, ma
Melody Nelson,
aimable petite conne. Tu étais à condition sine qua non.
Vous êtes bien sur Radio Présence et vous écoutez Thérapie Pop. Alors Gauthier, pour resituer un petit peu le contexte, on est au début des années 70 et Gainsbourg a quitté Paris pour la perfide Albion.
Et oui, il est parti s'installer à Londres où ça grouille de petits musiciens, pas piquer des hannetons.
Ouais, tu m'étonnes.
Et effectivement, c'est là qu'il va en avril 70 commencer à poser les premières notes de ce futur chef-d'œuvre, bien évidemment, que sera l'histoire de Melody Nelson, incontestablement Théo, le meilleur album de Serge Gainsbourg.
Sur cette émission, je vais pas te contredire. Et tu as une citation, Gauthier, assez parlante de l'ingénieur du son au sujet de l'enregistrement de
oui,
cet album.
Oui, parce que c'est un enregistrement atypique pour Serge Gainsbourg.
Oui.
Les séances démarraient à 17h, on s'arrêtait vers 21h pour aller dîner au resto en face, probablement bouffer un fish and chips dégueulasse, et on revenait pour travailler toute la nuit. Si l'album s'est fait en deux fois, c'est parce que Serge a vraiment eu une panne d'inspiration vers la moitié du disque, on le sentait bloqué.
Et s'il était bloqué, le bon Serge, c'est qu'il avait ses raisons.
Oui, il compose pour la première fois peut-être un album extraordinairement ambitieux qui s'enregistre sur des mois, contrairement à son habitude, on en avait parlé pour ses premières productions, où ça pouvait parfois être plié en 3 jours, quoi,
ouais,
voire une semaine.
Mais il avait aussi les raisons du cœur, tu sais, celles que la raison ne connaît pas et tout.
Alors,
ça.
Oui, si on essaie de comprendre, si on essaie de trouver les raisons, entre guillemets, à ce passage artistique si violent, parce que précédemment c'était Initial Baby, quoi, donc quand même dans un registre encore relativement pop, même si c'était beaucoup plus sophistiqué que ses premières compositions dans l'orchestration, etc.
Et surtout avec Bardot.
Et avec Bardot. Et il y aura aussi l'album avec Jane Birkin en cours de route. Mais
et justement, on revient à Birkin.
On revient à Birkin pour son petit problème d'ego, peut-être, Serge, puisque on rappelle que l'ex de Jane Birkin s'appelait John Barry. Alors John Barry, si vous ne savez pas qui c'est, je vais vous mettre un petit extrait musical. Vous n'êtes peut-être pas au fait de la musique de John Barry, mais vous êtes peut-être au fait des films dans lesquels il est intervenu. Extrait musical.
Ah, les mystères de l'Ouest.
C'est bien évidemment la bande originale de From Russian with Love, composée par John Barry, l'un des meilleurs James Bond selon
certains. Bon baiser de Russie.
Ouais, selon certains bondophiles, comment on dit, je sais pas.
Oui, si, bondophile, ouais.
Amateur de James Bond. John Barry, c'est un très grand compositeur de musique de film notamment, et vous l'entendez derrière, un compositeur avec orchestration. On va dire.
Et ouais, voilà. C'est une pointure, le John Barry. Et donc Serge a l'ambition de rivaliser avec lui, non seulement amoureusement, du coup.
Ça c'est bon, mais, il a gagné.
Voilà, mais aussi musicalement.
Oui, finit donc un peu la chansonnette, on va dire, de Gainsbourg, même si encore une fois il avait passé quelques paliers depuis ses premiers albums. Serge veut faire, et je le cite, une comédie musicale symphonique. Pour sûr, sa formation classique, puisqu'on le rappelle, hein, c'est un homme qui a eu une formation classique par son père, etc., au
ouais,
piano et
ouais,
tout, l'a très probablement énormément aidé.
Et c'est ainsi que va naître Melody Nelson. Alors, cet album a une particularité, c'est ce qu'on appelle un concept album. Est-ce que tu peux nous rappeler, Gauthier, ce qui se cache sous cette appellation ?
Alors oui, le concept album, ce sont des albums qui sont enregistrés autour d'un thème unique, souvent un thème, on va dire, une histoire unique, quoi. Et toutes les chansons se suivent pour raconter cette histoire. Alors, les premiers concept albums, c'est par exemple le SF Sorrow de The Pretty Things, un album extraordinaire, ou le plus connu Tommy des Who, qui raconte l'histoire du petit Tommy. Certains font remonter ça au Sgt. Pepper's des Beatles en 67, ce qui n'est pas tout à fait vrai, puisque Sgt. Pepper's ne raconte pas une histoire en tant que telle, ce sont différentes chansons avec des thèmes différents, mais c'était un album avec une, on va dire, une unité artistique très importante. Derrière, il y en aura des légions, des artistes qui font des concept albums, il y a Yes, King Crimson, Marvin Gaye, David Bowie,
bien sûr,
voilà,
ouais,
il y en aura beaucoup, mais c'est ça un concept album.
Et le concept album en question, je reviens à Melody Nelson, est si conceptuel que Serge abandonne même les structures musicales classiques.
Ouais, alors pour le thème, d'abord, parce qu'encore une fois, il faut un thème, un concept album, vous le savez, Melody Nelson, c'est cette espèce d'histoire d'amour entre un homme mûr et ce qu'on va qualifier de nymphette, puisqu'elle est clairement mineure. Hein,
oui,
elle a 14,
on revient à Lolita. Quoi.
Oui, elle a 14 automnes, ouais, et 13 étés, je crois, ou un truc comme ça.
C'est ça, exactement.
Voilà, ouais. Et qui fait effectivement...
Et 15 étés,
oui. Ouais. Qui fait effectivement écho au Lolita de Nabokov, dont Gainsbourg est un amoureux inconditionnel. Et tu le dis très justement, Théo, il y a l'idée donc de ce concept, de cette histoire narrative qui suit tout l'album, et il y a aussi une volonté de s'extirper par exemple de l'habituel couplet-refrain qu'il utilisait avant, pour quelque chose de beaucoup plus souple dans la structure. Il y a des chansons qui n'ont quasiment pas de refrain, en fait, qui sont de longues montées, certaines chansons sont très courtes, d'autres très longues. On prend une liberté artistique beaucoup plus importante.
Ouais, ce qu'on va retrouver, de toute façon, un petit peu plus tard dans les autres albums de Gainsbourg. Je pense notamment au meilleur album, L'Homme à la tête de chou.
Oui, mais il va revenir après à des choses plus classiques, parce que sur ses albums reggae, notamment, ou sur les albums Love on the Beat, etc., là, on revient à des structures classiques. C'est vraiment sa période où il s'affranchit de tout ça. Et il va utiliser, là encore, sa formation classique, classique pour y arriver, parce que l'histoire de Melody Nelson, c'est l'utilisation beaucoup de ce qu'on appelle l'ostinato, qui est une formule, enfin une forme de musique classique qui consiste à reprendre un thème musical qu'on répète à l'assemblement. Pour caricaturer, par exemple, dans Wagner, souvent il y a des espèces de gimmicks musicaux qu'on retrouve, ou dans Pierre et le Loup presque, où des personnages sont affectés, on va dire, à une musique particulière. Alors l'ostinato, bien évidemment, Pierre et le Loup, ça serait de multiples ostinato imbriqués les uns sur les autres. Mais en fait, si vous écoutez l'histoire de Melody Nelson, vous pouvez presque l'écouter en boucle ou en sautant d'une chanson à l'autre. Vous entendez souvent les mêmes boucles mélodiques, cette espèce d'ostinato qui revient régulièrement. Ça aussi, c'est une prise, entre guillemets, de Serge Gainsbourg à la musique classique, et ça donne cette unité extraordinaire artistiquement qu'est cet album Melody Nelson.
Le soleil est rare et le bonheur aussi, l'amour c'est garoulon de la vie. Le soleil est rare et le bonheur aussi, mais tout bouge au bras de
Mélodie.
La belle valse de Mélodie.
Et on connaît, Gauthier, le goût du bougre pour la grandiloquence qui va même le pousser à un achat étonnant.
Oui, parce que Melody Nelson, c'est aussi une transformation de Serge Gainsbourg en tant qu'homme, effectivement, qui devient presque un peu plus rock. Alors, effectivement, il va nous faire une petite Keith Richards, on pourrait appeler ça comme ça, puisque Keith s'était illustré à l'époque en faisant aussi un achat de ce type. Gainsbourg va s'acheter une Rolls-Royce modèle 1928, et à noter que Serge n'a ni le permis ni le chauffeur, donc en gros, la voiture va presque...
Quel intérêt.
Voilà, va principalement rester au garage. On se souvient que Keith Richards avait acheté une voiture du Troisième Reich, du même acabit, qui n'arrivait pas à conduire, donc il plantait dans tous les poteaux de Londres, jusqu'à ce qu'il la revende, donc Serge, 10 ans plus tard. Il ne gardera que le bouchon de radiateur, le Spirit of Ecstasy, qu'on entend là aussi sur Melody Nelson, dont il parle. Voilà. Je crois que Melody Nelson est justement renversée par une Rolls-Royce dont elle voit le Spirit of Ecstasy.
Et il n'y a pas que le garage de Serge qui change, Gauthier, son physique également.
Oui. Et quand Jane Birkin nous a quittés il y a peu de temps on a beaucoup parlé de l'influence dans la mode de Jane Birkin, toujours en jean, avec son petit panier en osier, etc. Et Jane Birkin va avoir une influence énorme sur le personnage à proprement parler de Serge Gainsbourg. Elle va le relooker. Alors elle, on la voit sur la pochette de l'album, un peu grimée en mélodie, mais elle va changer l'image de Serge, qui va être maintenant avec une barbe de 3 jours, les cheveux un peu plus longs, les répétos aux pieds, les fameuses répétos de Serge Gainsbourg. Bah, tout ça, c'est Jane Birkin. Fini les couvertures de Serge avec bien rasé, les cheveux courts et tout, le petit artiste rive gauche. Non. Maintenant Serge a une image un peu plus destroy.
C'est plus Boris Vian là. Ouais. Et en 71, deux événements vont se produire quasiment coup sur coup. Gauthier, le premier tragique et le second bien plus réjouissant.
Oui, c'est la petite aparté, on va dire carnet rose.
Carnet noir, carnet rose,
absolument. Puisque avant tout, une saga, c'est raconter l'histoire de Serge Gainsbourg. Et pas que de ses albums. Effectivement, le père de Serge Gainsbourg va mourir le 22 avril 1971. Serge, on l'avait dit dans une précédente saga, enfin un précédent épisode de cette saga, a toujours placé son père dans les grands carrefours des décisions de sa vie. C'est lui qui l'a mis au piano, c'est lui qui l'a mis au piano bar. Enfin voilà, donc il a été très...
La peinture aussi, enfin je veux dire, il s'était inspiré de lui pour la peinture.
Et pour arrêter sa carrière de peintre également, comme son père. Donc voilà, un homme éminemment influent dans l'histoire de Serge Gainsbourg. Et Carnet Rose, le 21 juillet de la même année, naissance de la connue pour les Français Charlotte Gainsbourg, bien évidemment, dans une ambiance très Mad Men. Je me souviens moi d'un épisode où ça accouche dans Mad Men, justement, c'est Jane Birkin qui le raconte. Pendant que j'accouchais, Serge et mon frère se saoulaient en face de la clinique à la liqueur de banane. Tous les quarts d'heure, ils venaient écouter au stéthoscope à la porte. C'est des accouchements que le 21e siècle ne connaît plus.
C'est en effet plutôt sportif comme accouchement. J'en connais deux qui l'auraient pas vécu de la même façon si on était parti saouler au Malibu pendant les premières contractions.
Et à la liqueur de banane, ils devaient dans un état, les mecs.
Bon les amis, il est temps de marquer une petite pause dans cette thérapie, on va le faire en s'écoutant Melody.
Melody, tu m'en auras fait faire des conneries. dada sur mon dos. Oh, mélodie, l'amour, tu ne sais pas ce que c'est. Tu me l'as dit, mais tout ce que tu dis est-il vrai? Tu m'en auras fait faire des conneries. Hey, 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 ho, à dada sur mon dos. Oh, mélodie, si tu m'as menti, j'en ferai une maladie. Je ne sais pas ce que je te ferai.
Vous êtes bien sur Radio Présence et vous écoutez Thérapie Pop. Aujourd'hui, c'est jour de saga et on poursuit donc l'aventure Melody Nelson avec toi, Gauthier. Et l'année 71 se termine un petit peu en eau de boudin pour ce pauvre Serge avec un morceau reconnu quasi unanimement comme étant de bien mauvais goût.
Oui, alors c'est effectivement parce qu'avec Serge Gainsbourg et de plus en plus d'ailleurs au demeurant, le scandale est toujours proche de la réussite. On se souvient par exemple avec France Gall, on fait des tubes mais qui sont mal interprétés. Enfin bon, et ben là, effectivement, en décembre 1971, Serge Gainsbourg avec notre chère Jane ont l'idée de chanter la décadence, qui est, on va dire, tout un programme. On vous en fera écouter une partie tout à l'heure. Ça fait un scandale absolu. La presse parle d'un mauvais goût spectaculaire et navrant, je les cite. Et en fait, dès le début 1972, on sent poindre une forme de lassitude pour ce couple sensationnel, très médiatique. Tout le monde en parle, ils font la couverture de plein de magazines, etc. Mais qu'on trouve déjà un peu étrange à l'époque, donc où Serge commence à ressembler à un gars un peu plus destroy. Jane Birkin a des mini-jupes. Pour la décadence, elle a une sorte de haut quasi transparent, dans mon souvenir. Enfin, voilà. Il commence à paraître un peu étrange. Fun fact très bizarre aussi, à l'époque, Roger Badim tourne Don Juan, enfin réalise le film Don Juan, dans lequel Jane Birkin et Brigitte Bardot se retrouvent toutes les deux dans un lit, un moment que Serge a dû apprécier au cinéma.
Le fameux trouple. Il se trouve que malgré l'échec cuisant de la décadence, le succès de Gainsbourg ne s'en trouve pas amoindri, Gauthier.
Non, alors c'est un peu étrange parce que effectivement, sa réputation avec Melody Nelson va s'en retrouver glorifiée parce que là c'est un artiste immense, mais le succès le boude. Ça va pas se vendre forcément énormément et le triomphateur de Je t'aime moi non plus ou de Passe à la caisse, etc., etc., qui avait dit, pardon, excusez-moi, qu'il était passé à la caisse à Denis Glaser en essayant d'aller récupérer un max de moula en travaillant notamment avec France Gall et tout, est en train, en fait, malgré le fait qu'il arrive avec un album immense, de redevenir cette espèce de poète maudit, cet auteur-compositeur très respecté, mais qui vend plus le moindre disque. Donc c'est un peu étonnant.
Et ça va quand même pas l'empêcher de sortir quelques petite pépite.
Oui, parce que pendant ce temps, il continue à composer pour les autres, et c'est à cette époque, par exemple, que sort le fameux Bon Grand, qui sera repris après par Dany et Étienne Dao, et qui est une chanson de
incroyable,
Serge Gainsbourg.
Incroyable. Ouais. Mais il faut reconnaître quand même que l'image qu'il renvoie n'est pas des plus glorieuses, parce qu'à cette époque, on est plus proche quand même de Johnny Rotten que d'Alain Delon. Quoi.
Ouais, et on est vraiment qu'au début. Alors effectivement, il passe beaucoup à la radio, beaucoup à la télé, mais il fume sur les plateaux, il est mal rasé, il dit des gros mots, il est cynique, et en fait, pour lui, c'est un positionnement, on va dire, d'image un peu compliqué parce que les vieux commencent à le trouver dégueulasse, les gens qu'il aimait au début, etc., commencent à trouver que ce mec de 40 ans est un peu étrange, et les jeunes, eux, ne s'identifient pas à ce mec qui a l'âge d'être leur père, quoi, en gros.
donc, qui, même s'il est punk,
voilà, est un peu étrange. C'est le début vraiment de ce que sera plus tard Gainsbourg. Ça peut paraître encore un tout petit peu cool à l'époque, mais déjà, c'est un peu étrange. La goutte d'eau qui fera un peu déborder le vase, ça sera le film Je t'aime moi non plus, dont on reparlera tout à l'heure. Mais Théo, on en a parlé, si tu le veux bien, un petit extrait de cette fameuse décadence.
Tourne-toi.
Non.
Contre moi.
Non. Pas comme ça.
La danse. La décadence. Oui, c'est bien. Bouge-toi.
Vous l'aurez compris avec ce bref extrait, la décadence est bien évidemment une danse décadente dans laquelle Serge et Jane simulent une sorte de prémisse à l'acte d'amour, voire carrément l'acte d'amour tout le long.
Et Gauthier, le bon Serge décide de retourner enregistrer un album à Londres en 73, et si Melody Nelson était un concept album, le suivant va peut-être aller un petit peu trop loin dans le concept.
Oui.
Parce que même s'il ouvre sur « Je suis venu te dire que je m'en vais », la suite est pour le moins laborieuse. Et on voit d'un tout autre angle le vent mauvais maintenant.
Absolument.
Je viens de le calculer en fait.
Eh bien oui, c'est l'album « Vu de l'extérieur » qui est un album concept d'une certaine façon autour du P, du bon vieux Prout. C'est une véritable obsession chez Gainsbourg, hein, les P, les flatulences, puisqu'il en fera même un livre, Théo, que tu as lu bien évidemment.
Oui, tu le sais, ouais.
À savoir
Yevgeny Sokolov.
Voilà, Yevgeny Sokolov, l'histoire d'un peintre qui peint avec ses P.
Qui fait des gazogues.
Voilà,
il appelle ça des gazogrammes.
Un livre parfaitement dispensable qui sortira en 81, comme quoi cette histoire de paix, ça va le poursuivre. Et un album qui ne se vendra pas du tout, puisqu'il n'en vendra que 20 000 exemplaires. Encore une fois, cet artiste redevient un peu complètement, pas ringardisé, mais en marge des ventes. Quoi.
Complètement marginal, ouais. Et alors, pour ne pas... Ça aussi, ça pique pas des hannetons. Le lendemain de la fin de l'enregistrement de l'album, Gainsbourg se fait peur, voire très très peur, Gauthier.
Ouais, bon, on va dire que ça lui pendait au nez, mais effectivement, le 15 mai, il fait une crise cardiaque, je le cite là dans le texte. J'ai eu très peur, j'avais le bras paralysé des pressions, je me suis mis à pleurer, j'étais seul. Jane était partie en train de tourner un film. Oui, pendant quelques minutes, j'ai pensé y passer, racontera Serge Gainsbourg au magazine des Inrecuptibles en 90. Et alors, parce qu'un bonheur dans la vie n'arrive pas seul, à l'hôpital, on lui diagnostique en plus une cirrhose. Bon, encore une fois, il faut dire que ça lui pendait un peu au nez avec le rythme de vie qu'il a vie. Et bien évidemment, vous vous en doutez, le traitement qui lui sera prodigué ne tiendra pas longtemps. Il annoncera immédiatement à la presse, sur son lit d'hôpital, qu'il va immédiatement augmenter sa consommation d'alcool et de cigarettes.
Bien sûr.
Serge,
quel génie.
Serge, tu le sais, ça va mal finir.
On sent qu'on est vraiment sur la mauvaise pente et c'est pas fini justement, Gauthier. Il va sortir encore un album conceptuel et on est toujours sur un goût relativement douteux.
Ouais, alors d'abord il va se rater dans les grandes largeurs en refusant de faire la bande originale d'Emmanuel, film érotique éminent de l'époque qui aurait pu l'enrichir ad vitam aeternam.
Carton.
Voilà, ben il va laisser passer. Il se vengera en faisant le troisième opus, enfin la bande
que personne ne connaît,
que personne ne connaît du tout et avec qui il gagnera beaucoup moins d'argent. Et effectivement, en 75, il sort l'album Rock Around Bunker, et encore un album enregistré à Londres, qui tourne, on va dire, autour de l'idée du Troisième Reich et de la Seconde Guerre mondiale. On trouve des chansons comme Nazi Rock, SS Si Bon, Tata Teton, ces bons gros jeux de mots à la Serge Gainsbourg. voilà, c'est la provocation, bien évidemment, mais d'un homme qui est aussi un peu en train d'exorciser ses démons. Petit extrait de Nazi Rock,
rapide,
qui reste quand même une chanson bien drôle.
Des longs couteaux. Enfilez vos bas noirs, les gars, ajustez bien vos accroches, bas vos porte-jartelles et vos corsets. Allez, venez, ça va se corser, on va danser le
Nazi Rock, Nazi, Nazi, Nazi Rock.
Un album pas mauvais, Rock Around the Bunker, à bien des égards, mieux que Vu de l'extérieur, mais qui est effectivement un choix artistique que certains qualifieront de douteux. Mais Gainsbourg le sait, et je le cite à l'époque, il dira « Pour moi, cet album était évidemment un exorcisme. » On rappelle...
son enfance.
Voilà, son enfance terrible pendant la Seconde Guerre mondiale. « Je me souviens que les petits choristes anglais qui chantaient sur l'album, en sortant du studio, m'ont souhaité « Good luck !» Elles avaient deviné que ça allait pas être évident. Et effectivement, ça l'a pas été. Et il le dira lui-même « J'ai peut-être poussé un peu le bouchon de champagne un peu loin, quoi. »
Mais j'ai poussé le bouchon, mais chez moi c'est un bouchon de champagne. Toujours un joli sens de la formule de Serge. Il commence néanmoins à ouvrir un peu les yeux sur le personnage qu'il est et l'image qu'il renvoie, et il va décider de se prendre en main.
Oui, alors il va falloir effectivement pivoter artistiquement, puisque certes il a enregistré Melody Nelson et deux bons autres albums, on va dire, mais on ne vend plus de Serge Gainsbourg à nouveau, et son personnage exaspère à bien des égards à la fois les vieux et à la fois des jeunes. Il va falloir donc trouver une arriver à changer, à pivoter artistiquement et dans son image. Et ça, cet album, il va apparaître un peu plus tard. On en parlera lors de la prochaine émission, mon cher Théo. Je sais que tu l'attends impatiemment, puisque c'est l'histoire d'un homme et d'un légume.
Les amis, il est déjà l'heure de se quitter. Je frétille déjà à l'idée de vous faire écouter Variations sur Marilou. On va se quitter néanmoins en s'écoutant Je suis venu te dire que je m'en vais, dont nous parlions il y a quelques instants. Je vous rappelle que cette émission est disponible en réécoute sur le site de Radio Présence.
Chanson qui, précision nécessaire, n'a rien à voir avec une espèce de pseudo-rupture avec Jane Birkin. On a souvent pensé qu'il était en train de la larguer avec cette chanson.
Mais non, puisque c'est un album qui est sur les proutes.
Et voilà.
On rappelle le vent mauvais, tout ça. On se retrouve bien entendu la semaine prochaine pour notre prescription mensuelle. Une très belle semaine à vous, une très belle semaine à toi, Gauthier.
Salut, mon bon Théo.
À lundi, salut.
Je suis venu te dire que je m'en vais. Et tes larmes n'y pourront rien changer. Comme dit si bien Verlaine au vent mauvais. Je suis venu te dire que je m'en vais. Tu te souviens des jours anciens et tu pleures. Tu suffoques, tu blêmis la présence qu'a sonné l'heure. Des adieux à jamais, hein, je suis au regret de te dire que je m'en vais. Hein, je t'aimais, oui, mais je suis venu te dire que je m'en vais. Tes sanglots longs ne pourront rien changer. Comme dit si bien Verlaine, au vent mauvais. Je suis venu te dire que je m'en vais. Tu te souviens des jours heureux et tu pleures. Tu sanglotes, tu gémis, apeurant que ce n'est l'heure. Des adieux à jamais. Je suis au regret de te dire que je m'en vais. Car tu m'en as trop fait. Je suis venu te dire que je m'en vais. Et tes larmes n'y pourront rien changer. Comme dit si bien Verlaine au vent mauvais. Je suis venu te dire que je m'en vais. Tu te souviens des jours anciens où tu pleures. Tu suffoques, tu blémis, à présent que ce n'est l'heureux. Des adieux à jamais, je suis au regret. Je te dis que je m'en vais. Oui, je t'aimais, oui, mais je suis venu te dire que je m'en vais. Tes sanglots longs n'y pourront rien changer. Comme dit si bien Verlaine, au vent mauvais. Je suis venu te dire que je m'en vais. Tu te souviens des jours heureux et tu pleures. Tu sanglotes, tu gémis, à présent personne n'est heureux. Des adieux à jamais. Oui, je suis au regret. Je dis.